إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette série de lectures des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des 40 hadiths que l'Hafidh al-Nawawi rahimahullah réunit dans son recueil célèbre. Nous en sommes arrivés par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au 37e hadith. Al-hadith al-sabi'u wa thalathun. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال النووي معلقا على الحديث: فانظر يا أخي، وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها فكتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. Donc le 37e hadith, d'après Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit de ce qu'il relate des paroles de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah a inscrit les bonnes comme les mauvaises actions. Puis, il les expose de la façon suivante. Quiconque a l'intention d'accomplir une bonne action, mais ne l'a pas faite, Allah l'a lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action complète. Quiconque décide d'accomplir une bonne action et parvient effectivement à l'accomplir, Allah l'a lui inscrit de 10 à 700 fois sa valeur et même plus encore. Quiconque a l'intention de faire une mauvaise action et il ne l'a pas faite, Allah l'a lui inscrit auprès de lui comme étant une bonne action. S'il décide de la faire et la fait effectivement, Allah l'a lui inscrit comme étant une seule mauvaise action. Donc ce hadith divin où Allah subhanahu wa ta'ala montre comment il traite les intentions et les actions de l'être humain. Et il les a divisées en 4 catégories. L'intention d'accomplir une bonne action sans l'accomplir. L'intention d'accomplir une bonne action en l'accomplissant. L'intention d'accomplir une mauvaise action sans l'accomplir. Et l'intention d'accomplir une mauvaise action en l'accomplissant. Al-Hasana, quand dans le hadith il est dit, celui qui fait une hasana. La hasana, c'est un nom qui est donné en arabe à toutes les actions pour lesquelles une promesse, une bonne promesse est donnée. Wa'dun hasanun. C'est pour ça que ça s'appelle hasana. Toutes les actions pour lesquelles une promesse, une bonne promesse est donnée est nommée hasana. C'est-à-dire tout ce qu'Allah a ordonné. Et as-sayyi'a, la mauvaise action, est le nom donné à tous ceux pour quoi il y a des mises en garde de châtiment pour celui qui les accomplit. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc, les obligations et les œuvres surérogatoires entrent dans la définition de al-hasana. Car il y a une récompense promise pour tous ceux qui l'accomplissent. Alors que al-sayyi'a, la mauvaise action, c'est spécifique aux choses interdites. Car al-makruhat, les choses détestables, n'entrent pas dedans. Car il n'y a pas une mise en garde de châtiment pour celui qui les accomplit. Donc, quand le serviteur pense à faire une bonne action, Allah lui inscrit une bonne action complète, même s'il ne l'a pas accomplie. Le fait de penser ici, ce n'est pas juste des idées, des pensées qui passent dans la tête sans avoir l'intention ferme de les accomplir. Il faut l'intention de l'accomplir. Celui qui a l'intention ferme d'accomplir une bonne action et qui n'a pas pu l'accomplir, c'est celui-là pour lequel une récompense complète est inscrite. Amma, une personne qui a juste des idées qui passent comme ça dans sa tête, sans intention ferme d'accomplir une action, il n'a pas de récompense pour cela. La deuxième catégorie, c'est quand il a l'intention ferme d'accomplir une bonne action et qu'Allah lui permette de l'accomplir. Cette personne-là, son action, ses récompenses seront multipliées par 10, par plus que 10, jusqu'à 700, voire même plus. Selon la sincérité et la perfection avec lesquelles il accomplit cette action. Plus il est sincère et plus il parfait son action, plus la récompense de celle-ci est augmentée. Elle a plus de valeur. Elle est multipliée. De même, toute personne qui a eu l'intention ferme de faire une bonne action. Il a commencé à l'accomplir, mais il n'a pas pu la terminer. Alors cette personne aussi, une bonne action complète lui sera inscrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui est rapporté par al-Bukhari, il parle de la personne qui, quand qu'il est malade ou en voyage, Allah lui inscrit ses actions comme s'il était résident et en bonne santé. C'est-à-dire, si à cause du voyage ou de la maladie, il a dû délaisser certaines actions qu'il avait l'habitude de faire, Allah lui inscrit comme s'il les faisait encore. La troisième catégorie, c'est la personne qui pense à faire une mauvaise action et qui l'accomplit. Qui pense à faire une mauvaise action et qui accomplit cette mauvaise action. Cette personne, un seul péché lui sera inscrit et non pas, ce péché ne sera pas multiplié. Et il se peut, comme il est venu dans le hadith de Muslim, dans la version de l'imam Muslim, qu'il fasse des actions après pour expier et effacer ce péché. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةُ تَمْحُهَا » et fait suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'efface. La dernière catégorie, c'est la catégorie qui nécessite le plus d'explications et de sous-catégories, c'est pour ça qu'on l'a retardée. Même si dans le hadith, elle a été citée avant l'autre. La dernière catégorie, c'est la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action, mais qui ne la pratique pas. Cette personne-là, elle est divisée en deux catégories. Ou bien elle a délaissé le fait de faire la mauvaise action pour une cause, ou bien il l'a délaissé sans cause, juste parce que sa volonté a faibli. Donc là, on a parlé de deux sous-catégories. Celui qui avait l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'a pas faite. Ou bien il a délaissé le fait de faire la mauvaise action pour une cause, ou bien il l'a délaissé sans cause, tout simplement parce que sa volonté a faibli. Pour la première catégorie, s'il l'a délaissé pour une cause, on le partage en trois sous-catégories. La première, c'est qu'il l'ait délaissé par crainte d'Allah. Alors celui-là, il lui sera inscrit une bonne action complète. La deuxième catégorie, c'est qu'il l'ait délaissé par crainte des gens et de leur regard. Alors celui-là sera puni à cause de cela. Car il a délaissé un acte par crainte du regard des gens. La troisième catégorie, c'est qu'il l'ait délaissé car il n'a pas été capable de l'accomplir. Alors qu'il était occupé à réunir les causes pour le faire. Celui-là aura le même péché que celui qui avait accompli le péché. Celui-là aura le même péché que celui qui a accompli le péché. Car il avait l'intention ferme et il a cherché les causes pour l'accomplir, mais c'est l'incapacité qui l'a poussé à ne pas faire le péché. Qu'Allah nous en préserve. Quelqu'un, il a l'intention de faire la perversité avec une femme. Il fait toutes les causes. En la contactant, lui donnant rendez-vous, en allant au rendez-vous, en faisant tout. Arrivé là-bas, elle n'est pas venue. C'est comme s'il l'avait fait. C'est comme s'il l'avait fait. Car ce n'est pas la crainte d'Allah qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. C'est juste qu'elle n'est pas venue. Là, on a parlé concernant le fait de délaisser la mauvaise action pour laquelle la personne avait l'intention de faire, l'intention ferme de la faire pour une cause. On a dit la première cause, la crainte d'Allah, la deuxième cause, la crainte des gens, la troisième cause, l'incapacité à aller jusqu'au bout. La deuxième catégorie, c'est celui qui a délaissé cet acte alors qu'il avait l'intention de le faire, non pas pour une cause, mais tout simplement parce que sa volonté a faibli. Si cet acte fait partie des actes du cœur, des péchés du cœur, comme le doute sur l'unicité d'Allah, comme l'orgueil, comme la vantardise, alors celui-là, le péché lui est inscrit, parce que son cœur a eu l'intention de le faire, il l'a accompli avec son cœur, même si on n'a pas vu l'image de ce péché sur son corps, sur ses actes. L'acte a été fait jusqu'au bout, car c'est un acte du cœur qui ne peut pas être visible obligatoirement, qui n'est pas obligatoirement visible sur la langue ou sur le corps. Par exemple, il y a des gens qui arrivent à se donner un rôle, à se faire paraître modeste devant les gens parce qu'ils font des sourires, ils baissent la voix et ils ne polémiquent jamais, alors qu'ils sont emplis d'orgueil dans leur cœur. Allah, il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Allah leur donne les péchés de l'orgueil qu'il y a dans leur cœur. Les faux semblants qu'ils font, ça ne leur sert à rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces personnes-là dont leur péché est lié à un péché du cœur, leurs effets et les péchés sont inscrits. Et la volonté ferme du cœur est suffisante. Ça peut même le faire devenir mécréant ou hypocrite de l'hypocrisie majeure, comme la personne qui doute sur l'unicité d'Allah, ou qui doute sur l'au-delà. Bien sûr, on ne parle pas des insufflations de shaitan qui passent et qui partent. La personne, elle les repousse. On parle de la personne qui, le doute, s'est installé dans son cœur. C'est installé dans son cœur. La deuxième catégorie de ces péchés qui ont été délaissés juste par faiblesse de volonté, qui font partie des actes qui sont apparents sur le corps. Cette catégorie-là, si c'était juste des insufflations qui passaient dans son cœur, ce n'était pas une intention ferme. Il avait des idées comme ça, des insufflations de shaitan, de faire tel ou tel péché. Et il les a repoussés. Celui-là, il n'a pas de péché. Au contraire, il a une bonne action. Car il a repoussé ses insufflations de shaitan. Il ne les a pas suivies. Il n'a pas fait suivre ses insufflations par une volonté ferme de les accomplir. Par contre, celui qui a eu une volonté ferme de les accomplir, puis après sa volonté affaiblie, celui-là, il y a divergence entre les savants. Al-Hafiz al-Nawawi et Ibn Taymiyyah et d'autres parmi les savants disent qu'un péché lui est inscrit. Car la volonté ferme de l'accomplir s'est établie dans son cœur. Il a juste tout simplement après, sa volonté a tout simplement faibli. Donc pourquoi on partage en catégories et sous-catégories dans nos explications? C'est pour pouvoir comprendre les différents textes qui parlent de ce sujet. Par exemple, là dans ce hadith, ces catégories ne sont pas citées. Il est juste cité celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, il aura une récompense complète. La personne, il pourrait la prendre de manière absolue et se dire, de toutes les manières, si je ne l'ai pas accompli, j'ai une récompense complète. Mais, on a d'autres versets. On a des versets où Allah Ta'ala, il parle de ceux qui veulent ce bas monde, qui penchent vers ce bas monde, que Allah va les châtier, alors qu'ils n'ont rien fait, ils ont juste voulu. Voulu. C'est intérieur. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quatre catégories, que ce bas monde il est divisé, il est pour quatre catégories de gens. Et il parle de la catégorie d'une personne à qui Allah a donné de l'argent sans science, qui le dépense dans le mal, et d'une autre catégorie d'une personne à qui Allah n'a donné ni bien ni science, et qui dit, si j'avais de l'argent, je le dépenserais comme celui-ci, c'est-à-dire comme celui qui le dépense dans le mal, et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur celui-là? Il a le même péché que le premier. N'est-ce pas? Donc, on est obligé de comprendre les hadiths en les réunissant tous ensemble. Voilà pourquoi on a dû diviser cette catégorie de celui qui pense à faire un péché sans l'accomplir avec toutes ces sous-catégories-là, pour pouvoir comprendre tous les textes. Et d'ailleurs, certains savants de l'islam disent, la vraie science, c'est de savoir différencier les choses de leur opposé et de connaître les différentes sections et subdivisions d'un domaine. Une personne qui maîtrise une chose et son opposé et les classifications et les divisions d'un domaine, il maîtrise ce domaine. Et il y a des savants qui ont écrit que dans ce sujet. Les savants de l'islam, ils ont écrit des livres, Al-Furuq, comme Al-Qarafi. Al-Furuq, les différences. Les différences entre les différents statuts ou différentes adorations ou les différentes choses. Connaître les différences, ça nous permet de mieux maîtriser chaque adoration. Et chaque acte et chaque statut religieux. C'est très important. Barakallahu fikoum. Mais faire des subdivisions et des divisions inutilement, juste pour diviser et subdiviser pour rendre les choses plus compliquées, non. C'est ceci qui est blâmable. Mais faire des divisions, des subdivisions d'un sujet parce que c'est nécessaire pour mieux le comprendre, pour mieux classifier chaque état et situation différente, c'est nécessaire et ça fait partie de la maîtrise de ce sujet. Le prochain hadith, الحديث الثامن والثلاثون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري Rahimahullah. Le 38e hadith. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, a dit. Le Très-Haut a dit. Quiconque se fait ennemi d'un de mes amis, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Or, lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne certainement, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Dans ce hadith, qui est un hadith aussi divin, Allah subhanahu wa ta'ala montre la rétribution et le châtiment de celui qui prend en animosité un des alliés et des amis d'Allah. El-Wali. El-Wali, El-Wali, le Wali, le bien-aimé d'Allah, l'allié d'Allah, dans la législation islamique, c'est toute personne croyante qui craint Allah. Tout croyant qui craint Allah est un wali. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les bien-aimés d'Allah, nulle crainte ne les touche, ni souci ne les afflige. Qui sont-ils? Ceux qui ont cru et qui ont craint révérentiellement Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont prémunis de lui. Donc, avec cette définition-là, les prophètes font partie des awliya. Ce sont les imams des awliya, les premiers et les meilleurs awliya, bien-aimés d'Allah. Donc tous les prophètes et ceux qui les ont suivis, ceux qui sont en dessous d'eux, parmi les croyants qui craignent Allah, sont des awliya, sont des bien-aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À la différence de la définition de wali dans la science de la aqida. Quand on étudie la science de la aqida, le wali, on lui a donné un sens plus précis pour le différencier du nabi, du prophète. Donc dans la science de la aqida, quand on dit le wali, on parle de tout croyant, homme ou femme, qui craint Allah, en dehors des prophètes. En dehors des prophètes. Donc c'était une définition plus restreinte. Alors que la définition plus large est la définition générale dans la religion. Et c'est ceci qui est voulu ici dans ce hadith. Le wali, c'est-à-dire tout homme croyant, tout croyant, homme ou femme, tout croyant, qui craint Allah. À leur tête, les prophètes, alayhi salatu wa salam, le fait de prendre en adversaire un bien-aimé d'Allah, cet acte pour lequel Allah lui déclare la guerre. Ceci est sous une des deux conditions qui vont être citées. Premièrement, c'est si il le prend en animosité à cause de sa religion. Si il le déteste à cause de la religion qu'il porte, à cause de la science qu'il porte, par exemple, à cause de certains actes qu'Allah aime, il le déteste pour cela. Et il le prend en adversaire et en animosité pour cela. Donc celui-là, Allah lui déclare la guerre. Ça c'est un. Ou bien, il le déteste et il le prend en adversaire et en animosité à cause d'une chose de ce bas monde. Et il le hait. Mais tout en transgressant et en étant injuste envers lui. C'est-à-dire, si quelqu'un déteste un bien-aimé d'Allah à cause d'une chose matérielle, mais il le transgresse, il l'opprime dans cette chose de ce bas monde, alors pour cette chose aussi, Allah lui déclare la guerre. Par contre, si il a de l'aversion envers un bien-aimé d'Allah à cause d'une injustice que lui a faite, une injustice de ce bas monde, que lui a faite, ou bien parce qu'il veut récupérer un droit à lui sans transgresser, ni même de lui faire de l'injustice. Alors dans ce cas-là, cette personne, Allah ne lui déclare pas la guerre. Donc vous avez bien compris les trois catégories? Deux catégories pour lesquelles la personne, elle est sous cette menace, et Allah lui déclare la guerre, et une catégorie qui n'est pas concernée par ce hadith. Mais la personne, en vérité, il doit comprendre de cela qu'il craigne Allah, car il ne sait pas qui parmi les musulmans autour de lui est un bien-aimé d'Allah. Il se peut qu'une personne que tu méprises, qui n'a pas de valeur à tes yeux, comme les gens ils disent, c'est un derwish. Les cheveux en bataille, plein de poussière. S'il venait intercéder pour quelqu'un, personne ne l'écouterait. Mais auprès d'Allah, il est aimé. S'il jurait par Allah que Allah il va faire telle chose, Allah il le ferait. Donc, ce hadith doit nous montrer la dangerosité de faire du mal à un croyant en général et encore plus si c'est quelqu'un qui est aimé par Allah, un croyant pieux. Il y a deux péchés pour lesquels Allah déclare la guerre à celui qui les commet. Ce péché-là et celui, c'est lequel l'autre qui peut me dire? Le riba, l'intérêt usuraire. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il y a deux péchés pour lesquels Allah déclare la guerre à celui qui les commet. Celui qui fait du mal ou qui prend à partie un bien-aimé d'Allah et celui qui s'adonne à l'intérêt usuraire. Qu'Allah nous en préserve. À la fin du hadith, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si je l'aime, or lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. » Ceci veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission d'écouter, de voir, d'attraper et de marcher vers les choses qu'Allah aime et agrée. Subhanahu wa ta'ala. Cela ne veut pas dire qu'Allah s'incarne en lui, car il y a une différence entre la créature et le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala est établi sur son trône au-dessus des cieux. Il est avec nous, avec sa science, avec son aide, avec sa permission. Subhanahu wa ta'ala. Et cette personne, on voit dans le hadith que cette personne, ses invocations sont acceptées. Quand il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, ses invocations sont acceptées. On tire aussi de ce hadith la manière ou le chemin qu'il faut emprunter pour être un bien-aimé d'Allah. Premièrement, c'est de donner de l'importance aux obligations. Avant tout. Et ça, on en a parlé la semaine dernière, il me semble. Qu'on ne peut pas construire des actes surrogatoires sans donner d'importance aux actes obligatoires. Il faut d'abord les piliers dans une maison avant de construire les murs, les fenêtres, le toit, etc. Quelqu'un, il fait tout l'embellissement, mais les piliers ne sont pas là. Un vent, tout s'écroule. N'est-ce pas? Donc ces piliers-là, ce sont les obligations. L'importance première aux actes obligatoires. Puis, la personne ne cesse de faire des actes surérogatoires en plus des obligations jusqu'à ce qu'il atteigne le degré d'être aimé par Allah. Donc, on entend, on comprend aussi par ce hadith que pour atteindre le degré d'être aimé par Allah, il faut s'efforcer à faire des actes surérogatoires en plus des obligations et ne pas se contenter à faire les actes obligatoires. Le prochain hadith, الحديث التاسع والثلاثون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Le 39e hadith, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ma communauté, Allah a absous l'erreur, l'oubli, et ce que ses membres font sous la contrainte. Rapporté par Ibn Majah, c'est un hadith acceptable, rapporté par Ibn Majah, Ibn Bayhaqi et autres que eux deux. Ça c'est la parole de Nawawi, rahimahullah. Ce hadith, certains savants voient qu'il est faible, que la plupart des versions qui sont rapportées, même dans les autres recueils de hadith, il manque de force. Quoi qu'il en soit, on a des versets du Coran qui vont dans ce sens et d'autres hadiths qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que ce qui est fait sans la volonté est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit dans ce hadith le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté. Du fait qu'il ne prend pas en considération trois catégories parmi leurs actes. Premièrement, al-khata, l'erreur. Ce qui est voulu ici par l'erreur, c'est ce que la personne fait inintentionnellement. Ce que la personne fait inintentionnellement. comme la personne qui a dit, par erreur, tellement il était heureux, « Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Ça, c'est khata. Comme quelqu'un, par erreur, il va dire une parole de mécréance ou autre, par erreur, sa langue a glissé. Allah tabaraka wa ta'ala ne le reprend pas, ne prend pas en compte cela. Ne lui demande pas de compte sur cela. Ça, c'est un. La deuxième catégorie, l'oubli. C'est-à-dire, c'est une chose qu'il connaît, il n'en est pas ignorant, mais il a oublié. Son cœur s'en est détourné. Cet acte aussi, Allah tabaraka wa ta'ala le pardonne. Ne le prend pas en compte. Erreur faite par oubli. La troisième catégorie est la contrainte, l'ikrah. C'est le fait qu'on oblige quelqu'un à faire une chose qu'il ne veut pas faire. Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce cas-là aussi, il ne prend pas en compte les mauvaises choses qui sont faites sous la contrainte. Ou les choses même qui sont faites sous la contrainte. Ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté, que les erreurs, l'oubli, la contrainte, ça c'est la nature humaine, subhanallah. Combien de fois on oublie, combien de fois on fait une chose qu'on n'a pas voulu faire, par erreur, combien de fois quelqu'un sous la contrainte, s'il est menacé de mort, ou sa famille est menacée de mort, il va dire des paroles même certaines, paroles de mécréance. Hein? Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne le reprend pas sur cela. Il lui pardonne, subhanahu wa ta'ala. Le prochain hadith, le hadith al-arba'un. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري رحمه الله. Le 40e hadith. Ibn Omar رضي الله عنهما rapporte. Le messager d'Allah صلى الله عليه وآله وسلم me dit. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم me saisit par l'épaule et me dit: soit dans ce monde, soit dans ce bas monde, comme un étranger ou comme quelqu'un de passage. Corroborant ces dires, Ibn Omar radiallahu anhuma disait: quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir, prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. Rapporté par Al-Bukhari rahimahullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans ce hadith l'état dans lequel doit être un homme pieux dans ce bas monde. Il a indiqué dans ce hadith l'état dans lequel doit être l'homme pieux dans ce bas monde. Alors, il doit être dans un de ces deux états. Le premier état, l'étranger. L'étranger, c'est une personne qui réside dans un pays qui n'est pas le sien. C'est ça l'étranger. L'étranger, c'est une personne qui réside dans un pays qui n'est pas le sien. Donc cette personne, son cœur, il est attaché au fait de revenir dans son pays d'origine. Alors il ne s'attache pas au pays dans lequel il réside, car il sait qu'il va devoir le quitter à un moment ou à un autre. Il y est un étranger. Donc son attachement à ce pays est faible, plus faible que quelqu'un qui est dans son pays, dans lequel il réside. La deuxième catégorie, le deuxième état vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigé, c'est l'état de la personne de passage. C'est-à-dire qu'il est voyageur. Il ne va même pas résider dans ce pays dans lequel il est. Il est juste de passage. Il y passe juste pour se reposer, pour régler quelques affaires, pour finir son commerce ou ses histoires ou ses affaires, puis repartir. Il n'y a aucun doute que ce deuxième état est encore meilleur que le premier. Car la personne qui se sent comme un passager, il est encore moins attaché au pays dans lequel il passe qu'un étranger résident. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigé vers ces deux états-là. Que tout serviteur pieux, sa manière d'être avec ce bas monde, c'est en premier lieu et la meilleure manière de se sentir comme quelqu'un de passage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu l'a vu avec des traces sur son flanc, il était allongé sur un matelas rempli de feuilles de palmier, de branches de palmier, qui avaient laissé des traces sur son flanc, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Omar ibn al-Khattab l'a vu ainsi, ça l'a peiné. Il a dit au messager d'Allah, tu es le messager d'Allah et tu dors sur ça. Alors que les rois des Perses et des Romains, ils dorment sur la soie, etc. Que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ma li walid dunya, qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis de ce bas monde que comme un cavalier qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis qui s'est levé et il est parti. C'est ça. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. C'est ça, 'abir sabil. Un passager comme ce cavalier qui se repose à l'ombre d'un arbre, quand il a fini de se reposer, il se lève, il part. Voilà notre état dans ce bas monde. Ce n'est pas notre demeure. Elle n'est pas notre demeure. Elle n'est que le lieu d'épreuve et de passage. Celui qui a compris cela, alors il a compris la vérité, la réalité de ce bas monde. Il ne s'y attache pas. Il en prend ce qui est utile pour son au-delà. Et il s'éloigne de tout ce qui pourrait nuire à son au-delà, ou même de tout ce qui n'est pas utile pour l'au-delà. Tout ce qui n'est pas utile pour l'au-delà. Zuhd, on avait dit l'ascétisme. C'est quoi la définition de l'ascétisme? Zuhd, c'est de délaisser tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. C'est un degré plus gros que al-wara, plus grand, plus haut que al-wara, que le scrupule. Le scrupule, c'est de délaisser tout ce qui pourrait nuire dans l'au-delà. Tout ce qui pourrait nuire dans l'au-delà. Alors que zuhd, l'ascétisme, c'est de délaisser tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà. C'est-à-dire même certaines choses qui nuisent pas dans l'au-delà, mais elles ne sont pas utiles, il les délaisse. Il les délaisse. Qu'Allah nous permette, subhanahu wa ta'ala, de comprendre la réalité de ce bas monde et la réalité de l'au-delà, et qu'il nous permette, subhanahu wa ta'ala, d'agir pour construire notre vie éternelle et de ne pas être attaché à cette dunya, à ce bas monde maudit qui n'a pas la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum.